Le journal est présenté par Margot Steve.
Bonjour à tous. L'Algérie se soulève contre un cinquième mandat Bouteflika, des dizaines de milliers de manifestants, un mort et un gouvernement qui reste muet. On sera sur place et l'on se posera aussi la question de la suite alors que le dépôt des candidatures se clôture demain. La demande d'extradition d'une dirigeante de la marque de téléphone Huawei au cœur des tensions entre le Canada et la Chine. Pékin parle de persécution politique. Un tournoi entre soldats blessés au combat, cela se passe aux États-Unis. Des militaires français ont fait le déplacement et ils ne sont pas là pour peler des oignons, c'est ce qu'ils nous diront. En France, les gilets jaunes dans la rue, les défenseurs de la maternité de Die aussi. Elle a fermé il y a un an comme beaucoup d'autres en France. Et puis la NASA reprend du poil de la bête, lancement réussi pour la capsule Dragon ce matin. Une victoire stratégique pour les États-Unis. En Algérie, les manifestations hier contre un cinquième mandat du président Bouteflika ont été les plus importantes depuis une semaine. La une du quotidien Le Soir d'Algérie parle d'ailleurs d'une immense protesta. Des dizaines de milliers d'Algériens sont sortis un peu partout dans le pays, mais surtout dans la capitale. Un manifestant est mort en marge d'affrontements avec la police à Alger. Le gouvernement, lui, reste muet alors que de nouveaux appels à manifester ont été lancés à Alger. Leïla Berhatou.
Ce matin, la presse algérienne parle d'un verdict implacable, d'une protesta immense. Hier, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans tout le pays et l'ensemble des manifestations s'est déroulé dans le calme, même si des échauffourées ont eu lieu à Alger et qu'un homme est décédé dans un mouvement de foule. Les autorités avaient pourtant mis en garde toute la semaine contre les dérapages, rappelant que l'Algérie avait déjà souffert pendant les années 90 et que les opinions devaient s'exprimer dans les urnes. Mais les Algériens sont sortis quand même, encore plus nombreux que la semaine dernière. Hier, alors que les manifestations faisaient cette fois l'ouverture du journal télévisé officiel, les autorités n'ont pas fait de commentaires. Et dans ce contexte, de nouveaux appels à manifester ont été lancés, notamment pour demain, puisque c'est la date butoir pour que les candidats à l'élection présidentielle déposent leur dossier au Conseil constitutionnel et que le Premier ministre a affirmé qu'Abdelaziz Bouteflika, qui était hospitalisé en Suisse cette semaine, déposerait bien sa candidature. Sur les réseaux sociaux, ce sont aussi des appels à la grève générale qui circulent. Des universitaires appellent à des rassemblements pour ce mardi et une manifestation est aussi annoncée vendredi 8 mars.
Une tension qui monte donc et des manifestants qui restent déterminés malgré le silence du pouvoir et malgré les violences. Alors jusqu'où ce mouvement peut-il aller? Angélique Ferrat a posé la question à Nasser Djabi. Il est sociologue et c'est l'un des signataires de la lettre ouverte contre un cinquième mandat du président Bouteflika.
On avait un nombre impressionnant d'Algériens qui sortaient sur tout le territoire national, mais on avait aussi la qualité, c'est-à-dire on avait une diversité sociologique. On avait des familles, des femmes, des vieux, des moins vieux, etc. Donc c'est une manifestation qui un peu reflète la sociologie, la démographie surtout de l'Algérie. Est-ce qu'ils sont déterminés? Je crois que l'objectif principal de ces marches, c'est le retrait de candidature du président de la République pour un cinquième mandat. Et je crois la grande mobilisation des Algériens hier nous dit que les Algériens ne vont pas reculer. Ils vont essayer à tout prix d'arriver à concrétiser cet objectif. Ils attendent aujourd'hui, ils attendent ce week-end, c'est-à-dire vendredi et samedi, pour voir un peu la réaction du pouvoir, parce que maintenant, la balle est au camp du pouvoir. C'est difficile de trouver un autre candidat, mais c'est facile d'arrêter le processus. C'est-à-dire, ils vont faire tout pour trouver une solution, une mise en scène pour dire que les élections ne peuvent pas être organisées dans ces conditions. Et après avoir retiré, bien sûr, la candidature de Bouteflika.
Nasser Djabi avec Angélique Ferrat. En Syrie, l'État islamique est bientôt privé de territoire. La coalition anti-djihadiste, soutenue par les États-Unis, a lancé hier soir l'assaut final dans le dernier bastion de Daesh à l'est du pays. Une zone de quelques kilomètres, mais hautement symbolique. Des dizaines de milliers de civils ont été évacués avant les premiers tirs d'artillerie. La Syrie où de la chlorine a bien été utilisée lors de l'attaque de Douma l'an dernier. C'est la conclusion d'un rapport de l'organisation mobilisation pour l'interdiction des armes chimiques, publiée hier. La Chine dénonce une persécution politique après le lancement par le Canada d'une procédure d'extradition contre une dirigeante du groupe Huawei, extradition vers les États-Unis. Washington reproche au numéro 2 de la téléphonie mondiale d'avoir contourné les sanctions contre l'Iran, mais aussi d'avoir pratiqué de l'espionnage industriel. Et cette décision de la justice canadienne ne devrait pas arranger les relations entre le Canada et la Chine, déjà très tendues, Angélique Forget.
Il ne s'agit pas d'une simple affaire judiciaire, mais d'une persécution politique. C'est avec ces mots que le ministère des Affaires étrangères chinois a réagi à l'annonce du lancement de la procédure d'extradition. Depuis le 1er décembre dernier, date à laquelle Meng Wanzhou a été arrêté à Vancouver, la Chine n'a cessé de réclamer sa libération et de faire pression sur Ottawa, en arrêtant notamment sur le sol chinois deux ressortissants canadiens et en condamnant à mort un troisième. Pékin en est persuadé, l'arrestation de Meng Wanzhou vise à miner son fleuron des télécoms et sert aussi d'atout à Donald Trump dans la guerre commerciale qu'il mène contre la Chine. La semaine dernière, pourtant, le président américain avait montré des signes d'apaisement dans ce dossier en assurant être prêt à discuter des poursuites pénales contre Huawei. Une source citée par un journal hongkongais assure même que Meng Wanzhou pourrait être libéré dans les prochains mois, avant même donc finalement que la procédure d'extradition n'aboutisse.
Angélique Forget pour France Culture. C'est un peu le combat des survivants, une compétition entre militaires blessés organisée ce week-end en Californie. Une dizaine d'épreuves sur plusieurs jours avec une idée, aider à la reconstruction physique et psychique des soldats. Éloïc Piala, une dizaine de soldats français font partie des concurrents.
À en juger par sa foulée sur la piste, l'adjudant-chef Pierre a l'air en pleine forme. Mais le stress post-traumatique est une blessure invisible. Après plus de 10 ans de service, il quittera bientôt l'armée de terre.
Enfin, je suis en début de reconversion et c'est vraiment, vraiment la fin, quoi. Enfin, je me dis, je finis en beauté sur une compétition de sport.
Une compétition à laquelle participent 200 militaires d'Europe et d'Amérique, des frères d'armes comme les appelle le sergent Pierrick. Les séquelles d'une blessure par balle empêcheront probablement ce membre d'une unité d'élite de retourner au combat.
Souvent on a un rejet avec les autres personnes qui n'ont pas été blessées, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on vit. Donc là forcément, même s'il y a la barrière de la langue, le fait que ce soit des soldats qui ont été blessés pour leur pays, on se comprend naturellement.
À l'entraînement de volleyball assis, Américains, Colombiens et Français jouent ensemble. Mais tous ces militaires en mission continuent de représenter leur pays. L'adjudant-chef Stéphane accompagne la délégation.
On est là pour la reconstruction par le sport. On est vraiment là pour entériner cette phase qui est importante pour eux. La médaille est presque secondaire. Maintenant, on n'est pas venu là pour éplucher de l'ail. Si on peut ramener des breloques, une coupe, ça concrétise un peu leurs efforts, leurs souffrances.
On n'est pas là pour éplucher de l'ail. Le reportage de Loïc Piala, correspondant de France Culture aux États-Unis. En France, un nouveau samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes, le 16e en un peu plus de 3 mois. Des rassemblements sont prévus dans toute la France avec l'espoir de relancer la machine un peu grippée ces dernières semaines, malgré une mobilisation en légère hausse la semaine dernière. Des manifestants toujours très remontés contre Emmanuel Macron qui a appelé au calme hier. Une marche blanche à Die dans la Drôme ce midi. Elle est organisée à l'initiative de deux couples, l'un dont l'enfant est né au bord de la route dans une voiture, l'autre dont l'enfant est mort in utero le 18 février. Ses parents sont convaincus que leur fils aurait pu naître si la maternité n'avait pas fermé il y a un peu plus d'un an. Le collectif de défense de l'hôpital de Die participe aussi à la marche. Son président, Philippe Levenberg, en appelle à la ministre de la Santé.
Cette marche blanche, elle est avant tout à la demande des parents, des deux enfants et notamment l'enfant qui est décédé. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, ils ont reçu beaucoup d'appels, beaucoup de gens de Divois en colère, et nous aussi on a reçu beaucoup d'appels. On a envie que cette marche blanche, ça soit la première et que ça soit la dernière, et que Madame la Ministre de la Santé nous entende, et entende bien le message des Divois. Voilà, une seule marche blanche et réouverture de la maternité et de la chirurgie pour que ça n'arrive plus jamais. On ne perd jamais l'espoir. Après, Madame Buzyn, elle prend ses responsabilités, et si elle veut fermer, enfin continuer à maintenir fermée, et à supporter telle situation, c'est son problème. Il y a d'autres maternités en France, le Blanc, le Creil, dans le Jura, qui sont dans les mêmes situations. Ouais, il faut qu'à un moment donné, il y ait un changement total de politique et qu'on réouvre des maternités de proximité.
Le président du collectif de défense de l'hôpital de Die, Philippe Levenberg. En 40 ans, deux tiers des maternités ont fermé en France. Un nouvel acte antisémite à Strasbourg. Cette fois, une stèle qui commémore la destruction d'une synagogue par les nazis en 1940 a été profanée. Ça s'est passé cette nuit. C'était un test crucial pour la NASA. Le lancement à bord d'une fusée SpaceX de la capsule Dragon. Une capsule qui doit permettre d'envoyer bientôt des astronautes dans l'espace. Le lancement s'est bien passé ce matin. Théo Conscience, bonjour.
Bonjour.
Ce décollage réussi, c'est une prouesse technologique pour la société SpaceX, mais c'est aussi et surtout un succès stratégique pour les Américains.
Oui, prouesse technologique parce qu'elle ouvre la voie à la reprise des vols habités américains dans l'espace qui s'était arrêté en 2011. Et les salariés de la société SpaceX ne s'y sont pas trompés. Écoutez leur réaction au moment du lancement de la capsule au centre spatial Kennedy en Floride ce matin.
All right, let's see if we get it.
C'est une question de fierté nationale, a déclaré Mark Geyer, le patron du centre où sont basés les astronautes américains. Il faut dire que si ce vol d'essai est concluant, les États-Unis pourront bientôt envoyer des hommes dans l'espace sans l'aide de la Russie. Et ça, ce serait une première depuis presque 10 ans. Depuis 2011, la NASA doit acheter des places dans les fusées russes Soyouz, les seules capables de transporter des humains vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Donc pour mettre fin à cette dépendance, la NASA a passé un contrat de 3 milliards de dollars avec SpaceX en 2014. Et la capsule Dragon qui a été lancée ce matin doit s'amarrer à l'ISS dimanche, puis revenir sur Terre d'ici une semaine. On pourra alors savoir comment le mannequin qu'elle transporte, qui est équipé de capteurs, a résisté aux forces auxquelles seront soumis les astronautes au décollage et au moment du retour sur Terre.
Théo Conscience, merci. Et si tout se passe bien, donc le premier vol habité aura lieu avant la fin de l'année.
La bulle économique, Marie Viennot.
Midi 41 sur France Culture, l'heure donc de la bulle éco. Et aujourd'hui, Marie Viennot nous parle du nouveau patron de l'autorité bancaire européenne, qui n'est autre que l'ancien lobbyiste de la banque Santander.
I'm very proud to present today the candidature of Paris for hosting the headquarters of the European Banking Authority.
Août 2017, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, présente la candidature de Paris pour héberger l'autorité bancaire européenne qui doit, Brexit oblige, quitter Londres. Paris sera finalement choisi et l'autorité bancaire européenne va donc bientôt ouvrir ses portes dans le quartier de la Défense avec à sa tête un tout nouveau président dont la nomination fait beaucoup jaser car il arrive directement d'une très grande banque, la banque Santander. Santander est l'une des plus grosses banques espagnoles. C'est une banque systémique, une banque too big to fail, comme on dit, trop grosse pour faire faillite. Depuis la faillite de Lehman Brothers, tout le monde comprend ce concept de la banque que le contribuable doit sauver du naufrage pour ne pas lui-même être emporté. L'autorité bancaire européenne a justement été créée après la crise financière en 2010 pour assurer, je cite, une régulation et une supervision de grande qualité, effective et consistante. Pendant 8 ans, cette autorité a été dirigée par un Italien pur produit de l'administration publique. Son mandat venant à expiration, une offre d'emploi a été publiée. Critères de sélection, grande expertise de la régulation bancaire au niveau national, connaissance excellente des institutions européennes et de la politique. Le processus de sélection est passé et c'est donc José Manuel Campa, un Espagnol, qui est sorti du lot. Ce n'est pas Bruxelles qui l'a choisi, mais les États via leurs superviseurs nationaux, Banque de France, d'Allemagne, etc. Universitaire de formation, secrétaire d'État à l'économie de 2009 à 2011, José Manuel Campa est actuellement responsable mondial des affaires réglementaires de la Banque Santander, en clair lobbyiste en chef auprès des autorités de régulation du monde entier. Il connaît donc tous les sujets de régulation actuels. Vous vous demandez peut-être si on peut passer directement du privé au public pour traiter exactement des mêmes questions dans un domaine aussi sensible que la régulation bancaire. La réponse est oui. Et sans aucun bémol. Quand on passe du public au privé, les règles européennes obligent à un temps de carence. Mais pas quand on fait le chemin inverse. Le rétro-pantouflage, comme on l'appelle, n'est pas encadré. Pas plus dans l'Union européenne qu'en France, où François Villeroy de Galhau est passé tout naturellement de directeur délégué de la BNP Paribas à gouverneur de la Banque de France, un exemple bien loin d'être isolé dans le monde. Des exemples d'aller-retour public-privé, on en trouve des milliers dans la finance. La finance est complexe, de plus en plus. Avoir travaillé dans le privé, c'est avoir l'expertise, pense-t-on, pour comprendre quoi réguler. Mais réguler dans quel sens ? Pour que le marché soit plus fluide ou pour qu'il soit plus sûr ? sûr. L'intérêt des banques n'est pas celui du public. Les banques ont intérêt à grossir, à jouer sur les marchés financiers. Le public a intérêt à ce qu'elles soient prudentes et qu'il n'y ait pas d'autres crises financières. Quelqu'un qui sort du privé peut-il changer de logiciel et penser l'intérêt général avant l'efficacité du marché ? Pour la finance, la question a été beaucoup étudiée et les recherches disent que les régulateurs qui viennent du privé ont plus tendance à déréguler. Alors, faut-il trembler ? Non. L'arrivée de José Manuel Campa à la tête de l'autorité bancaire européenne ne changera rien, explique l'ONG Finance Watch, car le lobby bancaire, dit-elle, est partout et la déréglementation de nouveau à l'agenda. Il n'y a donc rien de neuf et de scandaleux dans ce nouvel aller-retour public-privé. C'est juste symptomatique. D'ailleurs, personne n'a encore saisi la médiatrice européenne chargée de l'éthique, alors qu'il y a 20 mois, le départ de l'ancien commissaire européen Barroso chez Goldman Sachs avait suscité un certain émoi, qui n'avait d'ailleurs rien changé, et les portes de continuer à tourner.
La bulle écho de Marie Viennot. La météo de ce samedi, du soleil et des nuages qui vont alterner tout l'après-midi sur une grande partie du pays, entre 11 et 15 degrés au nord, entre 15 et 20 degrés du sud-ouest à la Méditerranée.